André Gladès, pseudonyme de Nancy-Marie Buille, Résistance, chapitre 9. Une nuit, Christine fit un songe qui se changea bientôt en un cauchemar d'épouvante. Elle rêvait qu'elle était malade à la maison, grelottant la fièvre dans son petit lit blanc, qu'elle appelait et que son père, plus tendre, plus émue qu'elle ne l'avait jamais connue, à sa voix, se penchait sur elle, lui présentant un breuvage frais. Restaurée, apaisée, avec la moiteur d'un baiser sur son front, elle glissait dans un molle assouplissement dont elle se réveillait de nouveau, en proie à une terreur sans nom. Elle était seule. Il faisait nuit. Une faible lueur éclairait à peine une immense salle inconnue où une trentaine de lits étroits, drapés de blanc, pareils aux siens, s'alignaient le long des parois. Christine se souleva à demi sur son coude dans un étonnement croissant. Où était-elle? Les murs étaient blanchis à la chaux, les fenêtres hautes et nues. Une odeur particulière flottait dans l'air. Au milieu, elle vit une longue table, à l'angle de laquelle une femme en cornette de linge examinait un liquide contenu dans une fiole. Machinalement, Christine s'accrocha d'une main à la poignée de bois qui pendait au-dessus de son lit, se dressa tout à fait. Sur toutes les couchettes s'allongeaient des couvertures blanches, bossuées en forme bizarre. À côté d'elle, une figure de fièvre, aux yeux dilatés et noirs, se détacha lentement de l'oreiller, tournée vers elle. C'était l'hôpital. Elle se souvint, sentit une eau froide ruisseler sur ses membres, poussa un cri déchirant et retomba évanouie dans les bras de la sœur qui accourait. Chapitre 10. Elle eut une fièvre cérébrale qui mit sa vie en danger. Pourtant, sa jeunesse et sa force triomphèrent. Un matin, elle s'éveilla comme d'un grand sommeil, accablée, encore lasse et bien faible, mais avec toute sa connaissance. Deux hommes au pied de son lit causaient à voix basse. L'un, le plus grand, lui était inconnu. L'autre, « Père, appela-t-elle d'une voix douce, légère comme un souffle. » Le docteur Niel se retourna vivement, poussa une exclamation, la saisit dans ses bras. Elle se suspendit à son cou en pleurant. Ce fut une réconciliation passionnée, sans parole, sans aveu. Tout ce qu'ils auraient pu se dire leur semblait au-dessous de ce qu'ils éprouvaient. Ils restèrent donc, silencieux, enlacés. Christine blottit sur le cœur de son père, sanglotant sa plainte d'enfant malade et repenti. Lui, les lèvres sur ses cheveux blonds, bouleversé jusqu'au fond de l'être, de sentir combien fort et spécial était le lien qui le rattachait malgré tout à sa fille première-née. Il se souvint à temps qu'elle était encore très malade et s'efforça de la calmer. « Il faut te reposer, lui dit-il avec tendresse. Je ne te quitterai point. » Après avoir disposé les oreillers, il lui donna encore à boire et lui tenant le verre, elle demanda à voix très basse. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Tu avais laissé mon nom et mon adresse, rappelle-toi. » »« On m'a écrit. Le docteur Sylvestre qui te soigne est un de mes anciens camarades. » Elle frissonna. Tu sais alors? Oui, je sais, dit-il en frémissant aussi. Ses mains tremblaient en lui reprenant le verre, tellement qu'un peu d'eau jaillit sur la couverture. Ne te tourmente pas, ma chère fille, il faut dormir. Mon enfant, il va bien. Il est chez une bonne femme de la campagne, je me suis occupée de lui. Elle eut un pâle sourire heureux, ferma les yeux et s'assoupit. Sa fine main amaigrie glissait dans celle de son père. Il la regarda dormir, assis au chevet du lit, conservant la même position pendant plusieurs heures pour ne pas l'éveiller. Autour de lui, la salle avait sa physionomie coutumière. Les infirmières allaient et venaient entre les lits. La sœur préparait des bandages et lui jetait de temps à autre un bon regard compatissant. De grands yeux cernés de malade restaient fixés sur lui, curieux ou indifférents. Des stores de toile claire tamisaient la lourde chaleur. Dehors, le ciel devait être très bleu, le soleil très brillant. Dans la haute salle, c'était une harmonie de blanc, assourdie, un peu terne. Une jeune et jolie infirmière, rose sous le papillon blanc de sa coiffe, entra avec une immense botte de fleurs des champs qu'elle mit trempée dans une cruche au milieu de la table. Elle eut, en reculant pour juger de l'effet, un sourire coquet de satisfaction. Tendre bleuet, herbe rousse, blanche marguerite au cœur d'or, s'épanouissait au-dessus de la cruche verte en une gerbe folle. Plus d'une morne prunelle s'aviva. De la jeune fille et des fleurs se dégageait un charme subtil d'été, de brises légères, de blondes avoines, de grands prés libres, une séduction de saine jeunesse. Le docteur Niel lui-même se sentit le cœur moins pesant. La salle était d'une propreté extrême, mais la nudité du lieu semblait pauvre. Tout y sentait la charité. Le cou et les bras minces de Christine, comme ceux des autres malades, sortaient d'une chemise de toile bise. Au-dessus de son lit, drapé de gros calicots, une planche supportait les objets d'un usage habituel. Aux pieds, piquée dans l'étoffe, une pancarte donnait toutes les indications relatives au numéro 28, Christine Niel. La seule exception qu'on eût faite en sa faveur, c'était de disposer autour de son lit, qui occupait un des coins de la salle, un paravent mobile. L'orgueil provincial du docteur souffrait plus qu'il ne voulait se l'avouer de cette promiscuité. Il rougissait d'en écrire à sa femme. Déjà, par la faute de leur fille, leur amour-propre avait été rudement châtié. Avec quelle joie, Belle-Aigle, la maligne petite ville, ne s'occuperait-elle pas de ces nouveaux détails? Heureusement qu'elle n'en saurait rien. Puis, il eut honte de s'arrêter à des préoccupations d'un ordre si mesquin, alors que tant d'autres, plus graves, sollicitaient son attention. L'année qui venait de s'écouler avait été une année d'épreuve pour les Niel. Hautains, cachant leur peine aux yeux du monde, ils n'enseignaient pas moins d'une blessure vive et profonde, où chaque petit événement de leur vie enfonçait un nouvel aiguillon. Le père ne pouvait se rappeler sans colère avec quelle rapidité la nouvelle de l'enlèvement de sa fille avait fait le tour de la ville et qu'il en avait été, en rentrant de ses courses à 10 heures du matin, le dernier informé. Pendant quelques semaines, tout Belle-Aigle ne parla que de ça. Or, dans les petites villes, on peut se demander ce qui est le plus difficile à supporter de la sympathie de ses voisins ou de leur hostilité. Les époux qui occupaient un rang élevé parmi leurs concitoyens et se glorifiaient à bon droit d'une ascendance irréprochable s'étaient jusque-là retranchés dans leur honorabilité de famille, un peu comme dans une forteresse où le mal n'aurait su par où pénétrer. Ils avaient des envieux. Leur malheur, quoique plein, ne fut pas sans exciter une discrète satisfaction. Ils le comprirent à la nuance même de la pitié dont on les enveloppa, un peu ironique, curieuse, légèrement malveillante, pleine de ménagements maladroits, de scrupules expressifs. Raidis contre le coup, ils n'avaient pourtant rien changé à leur vie extérieure. Le nom de Christine ne passait jamais leurs lèvres, et Madame Niel ne ferma pas une seule fois sa porte aux visiteuses qui l'assaillirent. Mais la paix d'intimité était détruite. Les trois jeunes sœurs continuaient leurs études, leurs récréations, leurs promenades. Leur mère ne leur supprima ni une heure de leçon, ni une réprimande. Cependant, elles la virent circuler dans la maison, le front plus soucieux, le sourire plus rare, la bouche amincie et amère. Elles sentirent s'épaissir autour de leur jeunesse une atmosphère d'insidieuse tristesse qui peu à peu les imprégna. Elles s'habituèrent à parler bas, à modérer leurs gestes, à étouffer leur rire. Élise, d'une enfance déjà trop réservée, passait à une morose adolescence. Ses 16 ans n'avaient point d'éclat. La petite Marthe s'alanguissait avec des airs d'oiseau malade. Le docteur Niel, cependant, faisait le matin ses visites, travaillait l'après-midi dans son cabinet, fréquentait son cercle le soir et se promenait dans la campagne les jours de congé avec ses enfants. Mais ils n'avaient plus rien à leur conter pendant les veillées d'hiver au coin du feu. Après le dîner, quand les trois petites étaient couchées, un tête-à-tête silencieux commençait entre le mari et la femme, où leur chagrin restait en entière fidèle. Tout d'abord, après le départ de Christine, la première indignation passée, leur pensée avait été celle-ci. Lorsqu'elle reviendra, brisée, humiliée, repentante, implorer notre aide et notre pardon, nous ne les lui refuserons pas. Car ils avaient un trop haut sentiment de leur devoir pour fermer la porte du bercail sur la brebis égarée. Seulement, il fallait qu'elles sentissent tout le prix de leur magnanimité. Puis, les mois s'étant écoulés, les laissant sans nouvelles, leur intolérable angoisse, un soir, avait fini par éclater. Pas un mot, pas un signe de repentir, pas un remords depuis 8 mois. Ah, cet enfant est perverse, insensible. Monsieur Niel secoua tristement la tête. Elle n'ose peut-être pas, répondit-il. Et ils se turent de nouveau, leurs pensées devenant trop amères pour qu'ils eussent le courage de se les communiquer. Le père gardait l'image du visage bouleversé de sa fille, de l'agonie empreinte dans le regard de Christine le dernier jour. Et soudain, il laissait échapper ce cri. Nous n'aurions pas dû, nous n'aurions pas dû la laisser partir. Tout aurait pu se réparer encore. Qu'est-elle devenue? Où est-elle maintenant? Vit-elle même encore? Dans quels abîmes la malheureuse n'a-t-elle peut-être pas roulé? Si elle s'est perdue, n'emportons-nous point la responsabilité? Ce que nous aurions dû faire, ah, je le vois si clairement aujourd'hui. La suivre, la ramener, la sauver malgré elle. Ils se désespéraient ensemble, sans que leur désespoir, pourtant, pût vaincre leur orgueil tenace, qui les empêchait toujours de tenter aucune démarche. Puis, une lettre inouïe, imprévue, tomba au milieu de leur perplexité, allumant, comme au contact de la foudre, l'inertie de leur conscience et de leur volonté. Elle était signée du docteur Jean Sylvestre. Le grand docteur de Paris commençait, avec délicatesse, par rappeler à son modeste confrère le souvenir d'une camaraderie ancienne pour justifier de son intervention. Puis, il l'avertissait de la tentative de suicide de Christine et qu'elle était malade à l'hôpital dans son service. Monsieur Niel lisait et relisait cette lettre dont les caractères dansaient sous ses yeux, tandis que sa femme, par-dessus son épaule, pleurait à larmes rares et lourdes. « Que vas-tu faire ?» lui demanda-t-elle en le voyant se lever, nerveux et vibrant. « Ce que j'aurais dû faire il y a un an, partir pour Paris, la ramener. Sa place est ici, au milieu de nous. » Aussitôt arrivé à Paris, il se fit conduire chez son confrère et ancien camarade, défaillant presque à la pensée de la honte de cette visite. Son anxiété fut de courte durée. Il reçut un accueil sympathique, amical, qui mit un baume sur sa blessure. Jean Sylvestre avait un grand charme de bonté intelligente. La séduction de son sourire, surtout, était irrésistible. Après avoir écouté, sans commentaire, le récit de son hôte, il lui proposa de l'emmener auprès de la jeune femme. Ce fut sous l'humiliation d'y sentir un membre de sa famille que le docteur Niel gravit à côté du maître l'escalier de l'hôpital où il avait autrefois pratiqué comme interne. On lui montra sa fille, délirante, les cheveux coupés, blême, amaigrie, méconnaissable. Et dans son affreuse angoisse, ce fut pour lui presque un soulagement de la retrouver inconsciente pour n'avoir pas à lui parler. La malheureuse, c'était son enfant à lui qui gisait sur ce lit de misère. Cependant, Jean Sylvestre, diagnostiquant l'état de la malade, le père dut se pencher aussi pour voir une ecchymose sur sa joue maigre. « Quelques coups, sans doute, » dit le maître en se relevant. Un éclair rouge passa devant les yeux du docteur Niel. Il chancela tandis que ses poings se crispaient. Ses ongles pénétraient dans la chair de ses mains, furieuses de ne pouvoir assouvir brutalement leur haine sur le brutal séducteur de sa fille. Puis, une autre pensée, encore plus épouvantable, sillonna son esprit. Était-ce bien lui? Qu'en savait-il au fond? Il songea à cette année obscure qui ouvrait comme un grand gouffre d'inconnu entre elle et son passé. Et, frissonnant, pour étouffer ses honteuses questions, il se pencha de nouveau, baisant Christine au front. Mais ses questions le hantaient sans cesse. Combien de fois, durant ses jours d'angoisse, avec la mort dont l'ombre avançait sur le lit, combien de fois n'avait-il pas surveillé ses assoupissements fiévreux, ses réveils de délire, écouté, le cœur plein de honte, les paroles qui s'échappaient de sa bouche inconsciente. Elle avait peur, elle fuyait devant une poursuite odieuse, repoussait des mains invisibles, se débattait dans une eau profonde. Ou bien, elle implorait, les bras tendus, soulevés hors du lit par une force de fièvre, et ses appels étaient toujours les mêmes, à la pitié, à la miséricorde, à une bonté qui sauve. Et maintenant qu'il la contemplait, dormant, si paisible, son premier bon sommeil, il remarquait combien son visage pâli était resté pur. Ses cheveux courts lui donnaient un doux air d'enfant. Sur son lit d'hôpital, au milieu de toutes ces figures de misère ou de vice, elle ressortait comme un beau lys très blanc, tombé là par mégarde. Il pouvait la ramener sans crainte dans son honnête maison. Aucun souffle d'impureté émanant d'elle n'en corromprait l'atmosphère. Pourtant, devant les difficultés pratiques de ce retour, mille préoccupations l'assaillaient. La convalescence s'annonçait bien. La jeune femme lentement reprenait ses forces. Elle semblait surtout très heureuse, sans pensée, engourdie par une molle joie de vivre. Son père s'inquiétait déjà de l'absence de nuages sur son front, étonné, froissé même, qu'elle n'eût pas davantage la conscience de son malheur. « Laissez-lui donc le temps de se remettre, » répondait Jean Sylvestre. Son esprit comme son corps a subi une terrible secousse. Cherchez à la distraire, éloignez le passé. Oubliez-vous qu'elle a voulu mourir? C'était précisément ce que ne pouvait oublier le docteur Niel. Ce séjour prolongé à l'hôpital, où tout lui rappelait ce tragique souvenir, lui pesait. Et il avait hâte d'emmener Christine achever sa guérison ailleurs. Ce fut elle qui refusa de partir. Une attraction confuse la retenait à l'hôpital devant le spectacle des misères qu'elle souhaitait un jour de soulager. Elle observait, s'intéressait. Et dans les groupes d'élèves qui accompagnaient les docteurs, elle distinguait les étudiantes. Ses yeux scrutateurs cherchaient à lire la pensée sous leur front. Puis, elle avait encore une autre raison qu'elle avoua. « Je suis bien soignée ici, » disait-elle. « Je ne dois en sortir que tout à fait guérie. » Comme son père insistait et que le docteur Sylvestre la remerciait en riant de l'honneur qu'elle lui faisait de ne pas vouloir quitter son service, elle s'expliqua avec quelque hésitation. « Je sens que je dois rester ici jusqu'au bout, comme les autres. Abandonnée, désespérée, mourante, c'est la maison des pauvres qui m'a recueillie, l'hôtel Dieu qui m'a hébergée. Pourrais-je renier aujourd'hui l'hospitalité que j'ai reçue en un jour de malheur ?» Ce fut ainsi que, persistant dans cette conduite qui parut capricieuse à son père, mais qu'approuva tacitement Jean-Sylvestre, elle se priva des adoucissements qu'il aurait été facile d'accorder à sa convalescence, refusant de se servir d'un autre linge que de celui de l'hôpital ou du couvert d'argent que Madame Sylvestre lui avait envoyé, n'acceptant les friandises et les fleurs que pour les partager avec ses compagnes. Elle y gagna l'affection de ces pauvres femmes, déjà prêtes à la jalouser. La veille de son départ, on la laissa s'asseoir en plein air pendant une des heures fraîches de la matinée. La vue du ciel bleu sur sa tête et d'un peu d'eau jaillissante au milieu d'un carré de verdure lui inspira une douce joie. Monsieur Niel vint la rejoindre. Ils causèrent peu, mais affectueusement. Il lui donna des nouvelles de sa mère et de ses sœurs, qu'elle écouta avec un plaisir ému, s'enhardissant même à lui faire quelques questions. Puis, elle glissa un silence rêveur, et un pli se creusa sur son front. À son tour, il eût voulu l'interroger, mais il hésitait et finit par la laisser à ce qu'il croyait être les méditations d'une conscience troublée. Il l'embrassa en lui disant d'un ton amical « C'est donc entendu, je viendrai demain te chercher. Je te garderai quelques jours à mon hôtel » et, le plus tôt possible, nous rentrerons à la maison. « Et mon enfant ?» demanda-t-elle, brusquement résolue. « Il est très bien, je t'assure. Je ne puis pas partir sans lui. C'est pourtant impossible. Il m'en coûte de te chagriner. Mais pense à tes sœurs, qui ne savent rien. D'ailleurs, ce ne sera que pour un peu de temps. » Il ajouta, avec un visible effort, « Si tu veux, avant de partir, nous irons le voir ensemble. » Elle eut un sourire d'infinie gratitude et, s'inclinant sur la main de son père, la baisa. Chapitre 11. Plus tard, dans ses heures les plus noires, lorsque, succombant au découragement, Christine nourrissait sa tristesse des souvenirs de son passé, il en fut toujours un pour amollir ses douloureuses rancunes, ramener sa tendresse, présenter à son cœur ulcéré une chère vision de paix et de pardon, et finir par rayonner, seul, au-dessus des autres mauvais, noyant leur ombre de douceur, le souvenir de la journée qu'elle passa à Saint-Germain, entre son père et son enfant. Pendant tout le trajet en chemin de fer, elle fut distraite. Dès l'arrivée, avec un regard indifférent pour le château et la terrasse que lui montrait son père, elle s'écria « Plus tard, allons le voir !» Ils pénétrèrent dans la forêt par un sentier que les feuilles de l'automne précédent recouvraient d'un humide tapis brun. De tous côtés, à travers les colonnades des chênes et des hêtres, et la dentelure des rameaux, garnie de claires aigrettes, s'infiltrait un demi-jour doré, dans lequel ils avançaient comme baignés, n'apercevant plus du ciel que de fuyants espaces bleus. Des ailes d'oiseaux froissaient les branches et des chants s'élançaient sous le dôme. Christine, ravie, écoutait. Quel bonheur d'entendre des oiseaux, de revoir des bois. Est-ce encore loin? Non, la maison est au prochain carrefour. C'est chez un garde de la forêt. Alors, je vais lui cueillir des fleurs. Et elle partait en avant, sa main se taille sans cesse ployée et redressée, gracile entre la sveltesse des troncs, tandis que son père, d'un air soucieux, la suivait dans le sentier. Jusqu'à quel point était-elle consciente? Une telle légèreté dans un pareil moment? Son âme avait-elle dans le mal des racines si profondes? Ni inconsciente, ni perverse, elle s'abandonnait à la simple joie de vivre. La maison leur apparut soudain à la lisière du bois. Une rustique construction, aux murs crépis de blanc, envahie par des plantes grimpantes, que précédait une sorte de cour à claire-voie où une poule picorait entre les pavés. Devant, derrière, tout autour, la forêt. Une femme, un enfant dans les bras, deux autres pendus à sa jupe, s'avança sur le seuil. Christine reconnut le sien et courut avec une exclamation de joie. Elle eut un moment de parfait oubli à presser son fils contre son cœur, à s'extasier, à le couvrir de baisers, à lui prodiguer des tendresses, à interroger la femme, lente paysanne, qu'effarait son exubérance. Monsieur Niel, resté à l'écart, attendait, souriant et gêné. Cette explosion de bonheur maternel le touchait. Il comprenait qu'elle dut souffrir de la séparation. Lui-même, cependant, tombait en proie à de nouvelles perplexités. L'ayant retrouvée, ayant pardonné, il avait caressé le rêve de la ramener, domptée par l'épreuve, à la vie d'autrefois. Cette chimère s'évanouissait. La maternité de Christine lui donnait des droits, sa faute même l'émancipait. Depuis qu'elle avait goûté à l'arbre du bien et du mal, elle n'était plus, si jeune fut-elle, une enfant que soumet son ignorance, mais une créature responsable, avec qui, quoique son père, il devait traiter d'égal à égal. Ce changement dans leur rapport, auquel rien ne l'avait préparé, lui causait un indéfinissable malaise. Justement, la jeune femme s'approchait de lui, son fils dans les bras. « Embrasse-le, murmura-t-elle d'une voix timide. Il s'appelle François, comme toi. » Lentement, comme à regret, il s'inclina, baisa le front qu'on lui offrait, tandis qu'un flot d'amertume l'envahissait, l'étouffait près de sa fille, devant ce premier petit-fils qui aurait dû être son orgueil et sa joie. Puis, ses yeux rencontrèrent ceux de Christine, si sérieuse et si triste qu'un véritable désespoir s'empara de lui. Elle aussi aurait dû être son orgueil et sa joie, toute jeune et jolie, si touchante dans sa grâce encore fragile de convalescente. Et rien ne pouvait effacer sa souillure. À quelle existence de douleur sa faute ne la condamnait-elle pas? Il eut une immense pitié d'elle. Son cœur se fondit de mansuétude. Il fut prêt à lui tendre les bras, à l'étreindre passionnément, elle et son innocent enfant, à leur faire un rempart de sa tendresse protectrice, à leur crier « Ne craignez rien, je suis là !» Et dans son impuissance à éloigner l'expiation, il aurait accusé le jugement des hommes d'être injuste, la loi inique, la vie impitoyable. Cependant, le maître de la maison venait de rentrer, saluait et disait à sa femme « Monsieur et madame resteront bien à déjeuner. » Volontiers, répondit Christine. Mais le docteur Niel, un peu gourmé, protestait, s'excusait, parlait d'emmener sa fille à l'hôtel. Cette offre de bon cœur interrompit la femme. Bien sûr que nous sommes des gens simples et que ce ne sera pas chez nous comme au restaurant. Nous avons des œufs tout frais, du bon lait. Et madame pourrait rester davantage avec le petit. Tout en parlant, elle couvrait déjà la table d'une nappe de toile bise à carreaux rouges, plaçait les assiettes, les verres, tandis que Christine, avec un joli regard implorant à son père, s'asseyait, débarrassée de son chapeau, son bébé sur les genoux. Une demi-heure plus tard, un déjeuner d'œufs frais, de beurre doré, de jambon frit était servi auprès de la fenêtre ouverte, et Christine ornait triomphalement la table de son bouquet d'herbes des bois. Après le repas, comme les deux hommes restaient en bas à causer, elle suivit son hôtesse dans la chambre à coucher pour voir où son fils dormait. « Vous avez l'air si jeune, on ne croirait pas que vous êtes sa mère », lui dit la femme du garde avec bonhomie. « Vous avez été malade ?»« Très malade, j'ai failli mourir. » »« Il n'y avait pas de danger si c'est le docteur Sylvestre qui vous soignait. » »« C'est un si bon docteur, et j'ai bien vu qu'il s'intéresse à vous. » « Comment le connaissez-vous ?» demanda Christine. « Mon mari a été plusieurs années à son service. Moi, j'étais lingère et je travaillais dans la maison. Ce n'est pas la première fois qu'il nous envoie des pensionnaires. Il nous a tout spécialement recommandé votre petit garçon. Il vous aura dit que vous pouvez être tout à fait tranquille, n'est-ce pas, madame ?»« Je n'aurais pas mieux choisi moi-même. Oui, j'ai toute confiance dans le docteur Sylvestre. Il est si bon. » C'est vrai, dit pensivement Christine. Cette dernière preuve de dévouement la touchait plus que toutes les autres. Elle se rappelait aussi ses paroles d'adieu, le long regard énigmatique dont il l'avait enveloppée, en lui disant « Quand vous serez de retour à Paris, venez me voir. » Il lui semblait si peu probable qu'elle dût y revenir jamais. Comme elle redescendait l'escalier de bois, elle vit son père, debout devant la porte, qui tendait la main au garde. Alors, elle comprit qu'il était temps de partir, et le cœur gros, mais refoulant son émotion, elle embrassa son fils. « Soignez-le bien, dit-elle à la brave femme d'une voix tremblante. C'est parce que j'ai été très malade que j'ai dû le quitter, mais ce ne sera plus pour bien longtemps. » Confiante, elle répétait les paroles de son père. Elle sortit de la maison un peu lasse, marchant en s'appuyant sur lui. Brusquement, ils débouchèrent de la forêt sur la terrasse. « Si tu veux, proposa M. Niel, après avoir consulté sa montre, nous pourrions nous promener un moment. »« Je veux bien, répondit-elle. » Ils firent encore quelques pas, puis s'arrêtèrent pour contempler le large panorama. Le ciel, soyeux et pâle, se fondait dans la ligne de l'horizon. Au-dessous d'eux, un vent vif entr'ouvrait les épaisses verdures où des toits de villas éclosaient, rouges ou gris, comme d'énormes fleurs à demi voilées. Dans un champ qu'encerclait la Seine, des vaches paissaient au bord des taillis, toutes petites dans l'éloignement. Et la rivière, onduleuse et souple, d'un bleu ardoise aux vertes profondeurs, serpentait sous l'ombre des arbres, marbrée par endroits, de larges plaques noires. Christine regardait, les yeux pleins de larmes. Elle pâlissait. « Qu'as-tu ? » lui demanda son père. « Rien. » Mais ses yeux, malgré elle, s'emplissaient de nouvelles larmes. « Tu dois être lasse, » reprit-il après un silence. « Il faut te reposer. » Elle se laissa conduire et ils s'assirent dans le parc sur un banc à l'abri du vent. Autour d'eux, des pelouses coupées d'arbres, vieux et hauts, entretenaient un jour d'émeraude comme dans la forêt. Aucun promeneur ne passait. Christine sentit que l'heure était propice, attendrie et bonne, telle qu'elle ne la retrouverait peut-être jamais, émue par cet irrépressible besoin d'expansion qui avait fait son malheur et sa faute. Elle fit spontanément ses confidences à son père. Elle s'efforça d'abord d'être juste et calme, de n'invoquer que ses désillusions, ses remords et son abandon. l'absolue incompatibilité du caractère qui lui rendait désormais la vie en commun avec Lionel de Reuil impossible. Mais ses souvenirs criaient encore de trop près, et elle finit par se livrer toute, par avouer toutes les provocations qu'elle avait subies, par laisser jaillir sa haine et son dégoût dans un récit qui peu à peu se passionna, devint âpre, douloureux, déchirant. Le docteur Niel, atterré, l'écoutait, le front dans ses mains. Elle parlait en femme abreuvée de tourments et d'outrages, résolue à quitter un mari indigne. Et, donnant son martyre comme excuse, elle suppliait son père de l'aider à briser un lien qui n'avait jamais existé, un lien que, pour son salut, il importait, au contraire, de nouer à tout prix. Chapitre 12. Le surlendemain, il rentrait à Bellaigue. Ce fut de nuit, par une pluie torrentielle. La petite gare était déserte. Avant de monter dans l'omnibus, pendant que son père faisait charger les bagages, la jeune femme embrassa d'un rapide coup d'œil l'horizon autour d'elle, vit la masse noire du Jura qui fermait le ciel comme d'une porte géante. Devina les Alpes du côté opposé à travers la pluie qui noyait leur sommet, et au bas de la rampe, à une distance de quelques minutes, la ville formant une tache opaque aux contours indécis, piquée de rares lumières. Au lieu d'éprouver de la joie, elle eut le cœur serré. Son impression de tristesse écrasante s'accrut à chaque tour de roue qui la rapprochait de la maison. Son père ne lui parlait plus, retombé à de mornes préoccupations. Ce retour au foyer dont elle s'était enfuie fut, ainsi qu'elle le prévoyait, douloureux, ému, embarrassé, plus affectueux peut-être qu'elle n'aurait osé l'espérer. Sa mère la pressa longuement dans ses bras, mais, raidie contre l'attendrissement, elle ne proféra pas une parole. Ce fut elle qui la conduisit dans sa petite chambre sous les toits où rien n'avait été changé. Le lendemain matin, ses sœurs, qui la veille étaient couchées, vinrent l'embrasser. Les deux aînées ne firent aucune remarque et la petite Marthe se suspendit à son cou avec une joie touchante. Puis la vie rentra tant bien que mal dans l'ornière. Malgré la bonne volonté de tous, une gêne réciproque se trahissait pourtant dans les moindres rapports. Les silences même étaient déconcertants, à l'égal des plus banales questions. Bientôt, Christine crut remarquer qu'on évitait de la laisser seule avec ses sœurs. Car, dès qu'elle essayait de se rapprocher de l'une ou de l'autre, leur mère survenait, l'air inquiet, et se mêlait à leur conversation, où la bonne, qu'on avait changée, accourait de la part de sa maîtresse convier les jeunes filles à quelques tâches. On évita sévèrement toute allusion au passé. Reprise par ce sentiment de froid qui avait engourdi son enfance, Christine ne retrouva pas auprès de sa mère le bel élan de confiance qui, en cette inoubliable journée de Saint-Germain, l'avait poussée à s'ouvrir à son père. Peut-être Madame Niel, qui aurait été en droit de s'attendre à un épanchement analogue, fut-elle froissée. En tout cas, elle mettait un soin si jaloux à ne rien laisser paraître de ses sentiments qu'on était excusable de ne pas les deviner. Elle traitait maintenant sa fille aînée avec une bienveillance dolente, lui marquant même une sorte de déférence qui excluait l'intimité. Christine, sous le toit paternel, semblait une étrangère à qui on aurait voulu plutôt du bien. On dirait que tout le monde a peur de moi à présent, pensait la jeune femme. Et elle faisait son possible pour regagner l'affection de chacun. Mais lorsque son père, l'ayant installée, fut reparti pour un voyage dont il ne lui dit pas le but et qui se prolongea davantage qu'elle ne l'eût supposé, elle se sentit de nouveau très seule et très misérable. Ses angoisses devant l'avenir Un instant éloignée par sa maladie et l'émotion de son retour, ne tardèrent pas à la reprendre. Plus que jamais, elle se demanda « Que vais-je faire ?» car elle comprenait que sa situation présente ne pouvait se prolonger beaucoup, et l'incertitude où la laissaient ses parents lui devenait intolérable. Elle était aussi sans nouvelles de son enfant. La nuit, ses rêves allaient à lui et le ramenaient. Que ne l'avait-elle dans ses bras à bercer, à caresser, à aimer? Elle éprouvait le besoin du berceau à côté de son lit. Ses réveils, quand machinalement elle étendait la main dans le vide, étaient pleins d'effroi. Des terreurs la hantaient, de ces terreurs folles des mères. Elle s'imaginait son fils mort, malade, et désespérait de ne pouvoir courir le soigner. Surtout, elle étouffait de devoir garder cette peine pour elle seule, de n'oser jamais parler de lui, de se réfugier dans sa chambre pour broder une robe qu'elle lui destinait, de cacher comme une honte la maternité dont elle était si fière, quand il lui semblait que d'entendre seulement prononcer le nom de l'enfant suffirait à rompre le charme et à les réunir. Un jour, elle essaya de parler de lui à sa mère. Mais au premier mot, Madame Niel, rouge, le front baissé sur son ouvrage, prit un air si malheureux que Christine, tristement, s'interrompit. Le lendemain matin, cependant, la jeune femme ayant demandé à reprendre sa part de la besogne commune, elles se retrouvèrent de nouveau seules ensemble, à raccommoder du linge dans la salle à manger. Et Madame Niel dit, après un très long silence, « Ton fils te ressemble-t-il ?»« Il a mes yeux, » répondit Christine. Et ce fut tout. L'effort était trop évident pour que la question lui fît plaisir. Au lieu d'en être heureuse, elle n'en sentit que plus de mélancolie. « Comme nous nous comprenons peu, » se dit-elle. Il me semble que mon fils et moi, nous nous aimerons tant. Elle arrêtait son aiguille dans la toile et songeait à la sollicitude passionnée dont avaient déjà été entourés les 4 mois de vie du petit François, à l'amour qu'elle lui donnerait encore, qui le suivrait adolescent, qui se transformerait avec lui plus grand, plus noble, plus compréhensif et plus tendrement indulgent à mesure que les années développeraient chez lui la faculté de souffrir. Et elle ne put s'empêcher d'évoquer la comparaison avec sa propre enfance, si peu heureuse qu'au plus profond de son malheur, elle n'avait pas désiré en revivre un seul jour. Dans le jardin sous la fenêtre, elle voyait sa chère sœur Marthe jouer seule, sans compagne du même âge, avec une vieille poupée bien laide qu'elle mettait couchée dans ses fleurs. Les robes de percale rayées d'Élise et de Berthe apparaissaient au bord d'une charmille. Elles étaient ses sœurs toutes les trois. Et aucune affinité réelle n'existait entre Christine et les deux aînées. Leur caractère, leur goût, leur sensibilité étaient en constante dissonance. Si la jeune femme en avait souffert, en souffrait encore quelquefois, un sentiment de résignation adoucissait maintenant ses regrets, car cette année de lutte avait beaucoup mûri son jugement et affranchi son intelligence. En revanche, une vive affection la liait à Marthe, mais l'enfant, trop jeune pour lui être une amie, passive et timorée, pliait déjà avec une grâce et une sensitive. Christine eut l'intuition qu'on commettait dans l'éducation de sa sœur les mêmes fautes que dans la sienne, quoique toutefois les résultats dussent être différents. Marthe ne saurait jamais vouloir. Son cœur défaillerait devant la révolte. Elle contenterait son âme tendre par le sacrifice d'elle-même. C'était une petite fille trop sage, trop douce, trop silencieuse, déjà un peu triste à 9 ans. Tandis que sa fille s'absorbait ainsi et rêvait, Madame Niel, sans cesser de coudre, poursuivait aussi ses pensées. Christine était perdue pour les siens. En tout, elle leur échappait. Elle se montrait pourtant plus docile, plus traitable, plus déférente qu'elle ne l'avait jamais été. Mais sa soumission ne portait que sur les choses extérieures. Son âme s'était dégagée, et la mère se demandait en tremblant dans quelle région dangereuse ou impure elle avait pris l'essor. Il aurait été facile de l'interroger. Malheureusement, dans une causerie confidentielle avec sa fille, Madame Niel aurait craint de laisser quelque chose de sa dignité. Mais trop préoccupée, elle laissait tomber l'aiguille à son tour et regardait Christine, que le drap épandu en blancheur autour de ses genoux enveloppait d'un reflet adouci, presque mystique. Il arrive souvent qu'après une violente secousse, l'organisme jeune renaît à la vie avec une sève renouvelée. Christine avait dépouillé dans la fatigue de ses couches et l'ébranlement de sa fièvre cérébrale tout ce qui lui restait de sa gracilité. Un sang plus fort circulait dans ses veines, colorait d'un rose transparent son visage au contour délicat. De délicieuses boucles courtes foisonnaient bas sur son front et ombrageaient sa nuque mince et longue d'une courbe charmante. Ses formes s'étaient aussi harmonieusement développées et elle n'avait plus cette ployante langueur dont la croissance charge les épaules des adolescents. Sa mère ne pouvait s'empêcher de la trouver belle et de s'en affliger davantage. Plût à Dieu qu'elle eût été laide, soupirait-elle. Rien de tout cela ne serait arrivé. Car à présent, quelle pensée corrompue n'abritait peut-être pas ce front en apparence si pur? Quelle vision malsaine n'allumait pas ses yeux sous leurs longs cils d'enfant? Qu'avait-elle vu? Qu'avait-elle appris? Qu'avait-elle fait? Dans quelle fange l'avait entraînée? Que gardait-elle dans sa mémoire souillée? Le beau corps de radieuse jeunesse n'en disait rien, et l'âme se dérobait. Tout à coup, tressaillante, la jeune femme se remettait à l'ouvrage. Et Madame Niel, comme prise en flagrant délit de flânerie, enfilait son aiguille avec une hâte fébrile. Et jamais rien dans leur conversation, toujours banale, ne trahissait les pensées que chacune nourrissait dans l'intimité de son cœur.